Bonjour.
Bonjour, tout va bien. Donc, j'ai parlé déjà avec Anne-Sophie de Fillan en général. Maintenant, je regarde un peu le site web pour voir ce qui se passe chez vous à cet instant. Et je vois déjà le Parlement européen place les intérêts commerciaux au-dessus des droits humains et du développement durable.
Oui.
Est-ce que c'est vrai?
Oui, tout à fait. Non, donc c'est vraiment récurrent quand des accords de libre-échange commerciaux sont négociés. Donc c'est une compétence maintenant qui est au niveau de l'Union européenne, qui ne ressort plus des États membres, mais donc c'est l'Union européenne qui négocie les accords commerciaux au nom des États membres. Et avec les pays en développement, on voit souvent une tendance de l'Europe à privilégier un peu ses intérêts et à imposer un peu sa force de négociation et sa puissance pour privilégier ses intérêts aux dépens souvent des intérêts des pays du Sud. On voit qu'il y a une force de négociation qui est un petit peu démesurée. Et bien qu'elle s'en défend, l'Union européenne bien essaye d'imposer ses intérêts. Alors, pour prendre un exemple que je connais bien entre, là ce n'était pas avec la Colombie et le Pérou, mais plutôt avec l'Inde, l'Union européenne a imposé une libéralisation dans des secteurs très sensibles de l'Inde, comme le secteur du lait ou le secteur de la grande distribution, pour permettre à nos industries agroalimentaires d'envahir en quelque sorte les marchés indiens et donc finalement de détruire un petit peu les petites productions locales. On sait qu'en Inde, il y a beaucoup de petites productions laitières, mais qui ne savent pas rivaliser avec les surplus qui sont déversés de nos producteurs et qui donc détruisent en fait la petite agriculture indienne. Alors, quand je dis ça, il faut prendre en compte aussi le fait que les producteurs laitiers ici en Europe vivent déjà des situations extrêmement difficiles, donc je ne les pointe pas du tout du doigt, c'est vraiment plutôt un système de libéralisation à outrance qui est pointé du doigt, qui ne permet pas en fait aux petits producteurs de pouvoir vivre de leur production et de pouvoir avoir un revenu décent de leur récolte et de leur agriculture.
Donc ça me touche personnellement parce que je travaille pour une ONG indienne. Et voilà, quelle est la solution d'après vous pour cette situation?
Ça, c'est vraiment une solution globale que nous prônons et on n'est pas du tout les seuls. Il y a énormément d'ONG qui se battent pour ça, d'experts qui mettent de plus en plus en avant qu'il faut changer de modèle agricole et de modèle commercial. L'agriculture et la production de nourriture est un bien tellement important, tellement essentiel pour pouvoir rencontrer le premier droit que nous défendons, le droit à l'alimentation, qu'on ne peut pas se contenter d'un bien libéralisé à outrance et qui provoque des destructions dans les différents pays. Donc il faut arriver à un système agricole et commercial qui soit régulé, qui favorise la production alimentaire au niveau local, d'une agriculture qui soit d'abord vivrière pour nourrir les populations et non pas destinée à l'exportation. Et ça demande que chaque État puisse soutenir son agriculture et la soutenir d'une manière qui soit conforme aux attentes de la population et qui puisse rencontrer leurs premiers besoins. Et quand vous faites de l'agriculture un bien libéralisé, c'est les règles du marché qui s'appliquent. Et donc c'est les règles du plus fort, en fait, qui vont s'imposer au plus faible. Et donc, voilà, c'est ça qui est un petit peu déstructurant et que nous dénonçons dans un système agricole mondial libéralisé, c'est qu'on ne prend pas en compte les intérêts des populations, mais plutôt le sacro-saint principe de la liberté de marché qui, au final, profite essentiellement aux agro-industries.
Et est-ce que cette théorie, c'est quelque chose qui vient de Fillan depuis longtemps? Parce que j'entends maintenant, je crois aussi un peu les mots d'Olivier de Schutter.
Voilà. voilà, donc ce n'est pas FIAN tout seul qui se bat, il y a énormément d'organisations qui sont dans cette logique-ci. Anne-Sophie parlait plutôt de différents réseaux dans lesquels nous sommes actifs ici en Belgique et au niveau mondial. On est sur la même longueur d'onde avec énormément d'organisations de la société civile, mais aussi d'experts des Nations Unies, d'experts scientifiques. Vous parliez d'Olivier De Schutter, rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation au niveau de l'ONU.
Il est belge.
Ah, voilà. Oui. C'était mon professeur d'université à l'UCL à Louvain-la-Neuve. Ah. Et donc maintenant il a occupé ce poste. Il est très réputé, il a une expertise qui est très reconnue. Et donc lui prône exactement ce genre de situation. C'est-à-dire que pour répondre aux problématiques de lutte contre la faim dans le monde et d'avoir un système de production alimentaire qui soit durable, il faut absolument opérer une transition vers une production basée sur des modes agroécologiques et qui soutiennent plutôt la petite agriculture paysanne et familiale, qui est beaucoup moins destructrice au niveau de l'environnement et qui permettrait surtout de faire vivre dignement beaucoup plus de petits producteurs qui sont en fait, et ça c'est un paradoxe, les principales personnes touchées par la faim au niveau mondial. Donc ça c'est un point important sur lequel j'aimerais insister, c'est que parmi les 870 millions de personnes qui souffrent de la faim selon les derniers chiffres de la FAO, il y a environ 3/4 de ces personnes qui sont en fait des petits producteurs ou des personnes qui vivent en milieu rural et qui dépendent d'une manière ou d'une autre de l'agriculture. Et donc c'est assez paradoxal que les personnes qui sont censées produire la nourriture sont en fait les premières touchées par la faim. Et bien de nouveau on en arrive à ce fait que c'est parce qu'elles sont exclues d'un système de production alimentaire qui soit vraiment détenu par l'agro-industrie et qui favorise donc quelques grosses entreprises au niveau mondial aux dépens des petits agriculteurs qui eux n'arrivent pas à survivre dans ce système économique et commercial.
Et que dit M. Olivier De Schutter sur les ONG ?
Ah ben, je crois que M. De Schutter a son indépendance clairement reconnue et affichée. Donc il utilise les données des ONG quand elles sont fiables, mais il se base aussi sur des données comme la Banque mondiale, la FAO, donc des organisations réputées des Nations Unies, sur des données scientifiques. C'est un universitaire, donc... Nous appuyons sur son travail, donc ce n'est pas vraiment une revendication des ONG qui tombe du ciel, non, c'est basé sur des données scientifiques, des plus grosses organisations internationales au niveau des Nations Unies, sur des experts scientifiques qui montrent que il est temps, le système actuel a prouvé ses limites, et si on veut rencontrer les défis du futur, de pouvoir nourrir la population mondiale et de pouvoir le faire en respectant l'environnement, il est impératif de changer de système de production agricole. Et donc voilà, nous en tant qu'ONG, en fait, quand des experts comme ça donnent des bonnes orientations, ben nous sommes tout à fait prêts à les relayer. Bon, nous allons parfois plus loin dans nos revendications avec des souhaits en plus de souveraineté alimentaire pour vraiment que les populations locales soient autonomes, qu'elles puissent être maîtres de leur nourriture. Donc nous allons parfois plus loin dans nos revendications, mais je veux dire, les revendications de base, elles sont approuvées, reconnues au niveau international. Et le rapporteur spécial, Olivier De Schutter, fait un grand travail. Son prédécesseur, Jean Ziegler, était aussi quelqu'un qui a beaucoup fait avancer la cause. Et donc, je trouve important, c'est que c'est reconnu par les plus grandes organisations internationales, par les experts, mais malheureusement, on n'arrive pas à changer ce système malgré les recommandations de ces personnes influentes.
Jusqu'à présent, disons.
Jusqu'à présent.
Parce que Monsieur Olivier De Schutter, est-ce qu'on l'écoute ? Est-ce qu'il a une vraie influence ?
Mais je pense qu'il a vraiment une expertise reconnue. Maintenant, voilà, quand vous arrivez dans le monde économique, vous vous affrontez à des intérêts qui sont très puissants, et c'est là que ça devient difficile de changer les choses. Pour prendre un autre exemple d'actualité, on parle beaucoup pour l'instant des OGM, les organismes génétiquement modifiés.
Oui, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là ?
Voilà, donc ça c'est un sujet qui est assez emblématique de la puissance de l'agro-industrie, parce que c'est l'agro-industrie qui, si vous voulez, présente un petit peu la solution des OGM comme un nouveau miracle qui pourra permettre de réduire les problèmes de la faim dans le monde. Or, on voit que c'est vraiment en fait une manière pour l'agro-industrie de reprendre encore le contrôle sur la chaîne alimentaire. Et là, il faut bien se rendre conscience que le problème actuellement de la faim, ce n'est pas tellement un manque de nourriture disponible ou d'une productivité agricole, c'est vraiment, comme je l'expliquais tout à l'heure, cette exclusion économique des populations marginalisées qui n'ont pas accès à cette nourriture. Donc ce n'est pas une disponibilité de nourriture, et ce n'est pas avec des OGM qui soi-disant permettraient d'augmenter la production agricole qu'on va réduire la faim, c'est vraiment en permettant de lutter contre la pauvreté, de permettre aux petits producteurs de reprendre le contrôle sur la chaîne alimentaire et de pouvoir produire une nourriture vivrière destinée avant tout à faire à nourrir les populations locales et pas sur un système économique de nouveau basé sur l'exportation et sur les intérêts des puissants.
Ah oui, je me rappelle quand il y avait cette action à Wetteren contre les OGM, que voilà. Dans la semaine après, il y avait déjà une déclaration des grandes ONG comme Oxfam qui disait exactement le problème de la faim, ce n'est pas un problème de pas assez, mais voilà.
C'est vraiment un problème d'accès physique et économique à la nourriture. Et donc, il faut vraiment essayer de se rendre compte que la production agricole, depuis les années 70, elle n'a pas arrêté d'augmenter. Et elle a augmenté bien plus que la croissance démographique au niveau mondial. Donc on a eu plus de nourriture disponible par rapport à la population sur Terre, et malgré ça, on voit que les chiffres de la faim n'ont pas reculé dans la même proportion. Donc de nouveau, pour insister que c'est cet accès à la nourriture qui pose problème et pas la quantité. Et donc de nouveau, pour résoudre ces problèmes, il faut mieux passer par une transition vers le soutien à une petite agriculture paysanne qui favorise alors les agriculteurs qui, une fois encore, comme je le rappelle, et surtout dans le sud, sont les principales victimes de l'exclusion des systèmes économiques et donc principales victimes de la pauvreté et de la faim dans le monde. Et c'est vers ce soutien à ces petits agriculteurs et sur des méthodes basées sur l'agroécologie que on s'en sortira pour résoudre les plus grands défis mondiaux, la lutte contre la faim et le respect de l'environnement. Et vous voyez que, par exemple, cette proposition des OGM, au-delà du fait qu'elles ont un impact qui peut être désastreux sur la biodiversité et sur la santé des personnes, en plus de tout ça, elles ne sont pas la bonne solution pour lutter contre la faim. Donc il y a vraiment là une opposition en fait de principes, d'intérêts qui ne va pas dans la bonne direction, et pas dans la direction en tout cas prônée par les plus grands experts internationaux pour résoudre nos principaux problèmes de lutte contre la faim.
Et au niveau européen ?
Donc au niveau européen, pour l'instant, la production d'OGM est encore interdite sur le territoire des États membres de l'Union européenne, mais on voit que les failles dans le système commencent à voir le jour, et voilà, c'est l'exemple en fait de ce qui s'est passé à Wetteren. Là, on commence à accorder des brevets pour faire des tests dans des champs par-ci, par-là, pour commencer à voir si le développement des OGM ne pourrait quand même pas être autorisé sur notre territoire. Et donc, c'est ce qui s'est passé à Wetteren, où c'est un champ d'expérimentation de patates OGM qui a été planté dans un partenariat avec un institut de recherche belge, avec qui reçoit un financement public pour lancer ce projet de recherche. Et donc c'est un financement public et privé avec les grosses industries qui qui favorise les OGM. Et donc là, les citoyens se sont mobilisés, ont dit non, nous on ne veut pas de plantations d'OGM qui vont avoir des effets néfastes sur les productions environnantes. Et il y a 500 manifestants qui se sont rassemblés et qui ont protesté donc contre ce champ d'expérimentation.
Oui, on connaît bien l'action. J'ai eu un entretien avec un des activistes et une personne de l'institution VIB la semaine avant.
Voilà, tout à fait.
Et aussi après. Et je sais qu'il y aura encore un procès.
Procès le 15 janvier.
Le 15 janvier, exactement.
Voilà.
On reviendra sur ça. Et il y a donc les OGM, mais il y a aussi cette histoire des carburants.
Les agrocarburants, oui. C'est aussi dans la même logique. Hein, c'est des monocultures qui sont maintenant destinées non pas à nourrir les gens, mais plutôt à nourrir nos voitures, donc ce qu'on appelle les biobrandstoffen en néerlandais. Ce sont donc des denrées, alors des denrées soit comme le maïs ou le colza, le jatropha qui permettent de produire du biodiesel, ou alors des cultures comme la canne à sucre ou le blé qui permettent de produire là du bioéthanol qui est en substitut de l'essence. Et donc ça, ce sont des politiques, l'Union européenne a largement subventionné tout ce développement de secteur pour essayer de réduire sa dépendance aux énergies fossiles, donc le pétrole. Et depuis le début, là aussi, les ONG dénoncent vraiment cette pratique de favoriser dans un monde où il y a déjà 870 millions de personnes qui ont faim, le développement de cultures pour nourrir des voitures plutôt que nourrir des personnes. Ça a en plus un effet d'augmenter la volatilité des prix des matières agricoles, donc ça augmente les prix et ça augmente leur volatilité, ce qui est extrêmement néfaste de nouveau pour les consommateurs, surtout dans les pays les plus durement touchés. Les cultures d'agrocarburants demandent des quantités énormes de terres qui sont achetées dans les pays du Sud généralement et cultivées pour ce développement de cet agrocarburant. On estime plus ou moins à 35-40 millions d'hectares de terres actuellement qui sont destinées à la culture d'agrocarburant, donc ça représente près de 15 fois la Belgique quand même. Donc imaginez-vous 15 fois la Belgique pour produire des agrocarburants, alors que pour l'instant ça ne compense qu'une infime partie de nos besoins en pétrole. Donc là aussi c'est une fausse bonne solution et il faut vraiment arrêter de partir dans des fausses pistes et prendre vraiment à bras le corps les causes structurelles de la faim, et donc comme je l'ai encore expliqué tout à l'heure, c'est vraiment changer de système de production agricole, mais aussi de système de mode de consommation chez nous qui ne sont pas tenables à long terme, que ce soit en termes de consommation alimentaire, mais aussi là en consommation énergétique, puisque pour rencontrer nos besoins, on utilise maintenant de la nourriture pour faire rouler nos voitures.
Donc vous protestez contre ça aussi au niveau européen?
Voilà, il y a une politique en fait qui, au niveau européen, qui oblige les États à atteindre 10% d'énergie renouvelable dans leur transport d'ici à 2020, et donc qui oblige les États à pousser la production d'agrocarburants, car pour l'instant c'est le seul moyen qui permet de rencontrer ces objectifs. Pour l'instant, on en est plus ou moins, ici en Belgique, à 4-5% d'agrocarburants qui se retrouvent dans notre essence de voiture, ce que les gens d'ailleurs ignorent souvent. Donc quand vous allez à la pompe, dans la pompe, vous avez environ 4-5% d'agrocarburants dans votre essence. Et donc on voudrait augmenter déjà ça à 10% pour 2020, donc ça va encore plus que doubler la demande en agrocarburant, donc on en arriverait encore à des quantités, oui, de terres plus importantes qui seraient...
30 fois la Belgique donc.
Voilà. Donc c'est vraiment énorme. C'est des terres qui sont acquises dans des pays du Sud, de nouveau par des grandes industries qui peuvent se permettre de faire des énormes cultures de produits, donc des monocultures qui seront destinées à l'exportation vers l'Europe. Et ça a des effets qui sont désastreux sur les populations locales, puisque ces terres sont accaparées au départ des populations locales qui dépendent essentiellement de ces terres pour survivre. Donc moi, je reviens d'une mission en Sierra Leone où j'ai été rendre visite à des communautés qui étaient des communautés paysannes, qui vivaient difficilement, mais qui survivaient de leur petite agriculture. Et bien là, le gouvernement sierra-léonais vient de conclure un accord avec une entreprise pour lui céder 8000 hectares de terre pour faire une plantation d'huile de palme qui permettra notamment la production d'agrocarburants.
Et où doivent partir ces gens qui habitent là maintenant ?
Eh bien, en fait, ces gens, alors là, en l'occurrence, n'ont pas été déplacés, mais si vous voulez, ils gardent juste leur maison et ils ont perdu toutes les terres environnantes sur lesquelles eux cultivaient, sur lesquelles ils récoltaient les fruits de la forêt, sur lesquelles ils chassaient. Donc vraiment, tout, la seule source de subsistance et d'existence qui leur restait, c'était cette terre dans laquelle ils trouvaient au moins leur source de nourriture. Et bien voilà, maintenant cette terre leur a été privée et ils n'ont eu pas vraiment droit de négocier. C'est vraiment le gouvernement et les autorités locales qui ont cédé les terres pour une maigre compensation financière, évidemment, qui revient en priorité aux autorités et pas aux populations locales.
Mais est-ce qu'on n'a pas payé ces gens pour leurs terres ?
Ils ont reçu l'équivalent de 220 euros par hectare de terres cédées. Donc ça représente, et c'est pour les céder sur une période de 50 à 70 ans, donc autant dire à vie. Imaginez-vous, je ne sais pas quelle est la surface de votre maison. Moi, j'ai une surface qui ne vaut pas un hectare. Si on me donnait maintenant 220 euros pour céder ma terre à vie, je me retrouve sans ma maison, sans mon terrain. Et encore, là-bas, il faut se rendre compte donc que le terrain, ce n'est pas seulement une habitation, c'est vraiment là où on tire ses moyens de subsistance. C'est là où on cultive, c'est là où on a ses plantes médicinales, c'est là qu'on trouve tout. Si vous leur privez de ça, ces populations sont vraiment vouées à dépérir. Elle disait, c'est assez frappant, le projet d'exploitation a commencé il y a à peine un an. Depuis un an, avant, elle se nourrissait 2 à 3 fois par jour. Maintenant, elle n'arrive plus à se nourrir qu'une fois par jour. Donc, voilà, c'est un exemple concret et il y en a vraiment des milliers. Il ne faut pas croire que c'est isolé. Mais donc, de ces accaparements de terres qui sont le fruit de politiques qui subventionnent le développement des agrocarburants, mais aussi nos modes de consommation alimentaire qui sont un peu démesurés. Donc voilà, c'est tout des effets qui ont des impacts dont il faut être conscient dans les pays du Sud.
Et aussi dans les pays du Nord. Et ce qu'on peut faire, nous, c'est consommer un peu moins, donc.
Voilà, je pense qu'il y a... j'insiste aussi que la situation des petits agriculteurs, elle est aussi difficile dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays du Nord. On voit avec la crise du lait qu'on a encore connue, les agriculteurs en Belgique ne savent pas non plus vivre des revenus de leur production. Et donc c'est de nouveau à qui que ça profite ? C'est à une agro-industrie alimentaire de transnationales, d'entreprises transnationales qui récupèrent les bénéfices, mais tant les agriculteurs du Sud que les agriculteurs du Nord n'en profitent pas. Alors, si on aborde des solutions pour changer ce système, donc comme je l'ai dit, il faut essayer d'aller vers une transition, vers des modes de production agroécologiques et qui soient en soutien aux petits agriculteurs, aux petits paysans. Mais nous, en tant que citoyens, nous avons également une responsabilité et je pense que retrouver des modes de production locales, nous consommer des denrées issues de l'agriculture biologique et au niveau local consommées de saison, consommer moins de viande qui sont extrêmement énergivores, qui demandent pour produire par exemple 1 kg de viande, il faut que la bête ait consommé 6 kg de blé, qu'elle ait consommé beaucoup d'eau, qu'elle ait consommé beaucoup d'énergie pour la transformation de la viande, etc. Après, donc voilà, réduire la consommation de viande permet aussi d'avoir des... De diminuer la pression sur l'éther et sur le système de production alimentaire en général. Je pense aussi que si on consomme des produits qui viennent d'autres pays, on connaît bien maintenant le commerce équitable qui permet au moins de s'assurer que les petits producteurs du Sud aient reçu et produit dans des conditions dignes et reçu un revenu minimum pour leur activité. Qu'est-ce qu'on pourrait citer encore? Ben, je pense qu'on pourrait essayer de diminuer grandement le gaspillage alimentaire dans nos foyers et avec ces grandes surfaces parfois qui...
Et surtout pendant les jours de Noël et du Nouvel An, peut-être.
Donc, c'est très gai de faire un bon repas, essayer de trouver des recettes innovantes avec des produits divers qu'on a oublié ici, mais qui sont délicieux. Essayez de ne pas prévoir pour 20 personnes quand vous n'êtes que 10. Ce sont des petites choses, mais je pense qu'il faut que ça rentre progressivement dans nos mentalités et c'est comme ça qu'on réussira à faire évoluer les choses.
Ok, on fera ça. Il est 11h. Ce que les gens peuvent faire aussi, c'est regarder votre site web, qu'on va mentionner aussi sur notre site web, c'est filiane.be. Et merci donc pour votre temps, tellement
merci
tôt,
à vous.
Le samedi. Et à la prochaine.
Oui, très bien.
Bonne Au revoir. Journée.